Si ce passage de la femme adultère est mis au cinquième dimanche du carême, juste avant l'entrée dans la semaine sainte, dimanche prochain, c'est les rameaux, c'est que ça nous dit quelque chose de ce que ça veut dire être sauvé. De quoi s'agit-il ? On voit une femme qui a été amenée devant Jésus et qui a été surprise en flagrant délit d'adultère. Première question qu'on peut se poser, si c'est un flagrant délit, où est l'homme ? Parce que la loi du Deutéronome dit très clairement que l'homme et la femme seront lapidés. Et puis, c'est clairement un piège, puisque déjà à ce moment-là, il n'y avait plus de lapidation. Donc, on met Jésus à l'épreuve pour le faire chuter, pour l'accuser. Et comment est-ce qu'on met Jésus à l'épreuve, sinon en le tentant par la miséricorde, et pour voir si la miséricorde s'oppose à la loi. Et là, on voit des choses, et dans le film de Mel Gibson, La Passion du Christ, que vous avez certainement regardé, où c'est Monica Bellucci, la belle italienne, qui a demandé à prendre la place de la femme adultère, à prendre ce rôle. Est-ce que c'est un passage autobiographique ? On ne le sait pas. Mais toujours est-il qu'on voit dans ce passage, cette femme-là est dans le, comme floutée, ses longues barbes armées de pierre, ses regards accusateurs qui sont là face à cette femme qui est là, debout, au milieu. Et il y a tout des, il faut être attentif au mouvement à l'intérieur de ce passage. Et Jésus, d'une certaine manière, détourne l'attention des regards accusateurs de la femme adultère, il porte ses regards sur lui-même. Il prend sur nous nos péchés. C'est déjà le premier mouvement du salut. Et puis, il y a ce mouvement aussi qui est très intéressant de s'abaisser et de se relever. Hein. Il s'abaisse et se relever, évidemment, c'est le mouvement du salut. Hein. Le Christ qui a pris notre nature humaine et qui nous ressuscite avec lui, s'abaisser et se relever, mais aussi, comme par délicatesse, pour cette femme qui est là, mise au milieu, debout, en face de tout le monde, en face de tous ses regards accusateurs, il ne veut pas la dévisager. Il veut rester dans une modestie. Et il se relève pour faire face aux accusateurs. Et dans le film, on voit très bien que Jésus se positionne entre la femme et ceux qui l'accusent. Et puis, il y a ces fameux, il trace des traits sur la terre. Jésus n'a rien écrit, si ce n'est, alors on ne sait pas si c'est de l'écriture ou quoi, mais si ce n'est ces traces faites avec le doigt sur la terre. Et c'est très beau de voir que, d'une certaine manière, alors les interprétations ont été multiples. Certains ont dit, mais est-ce qu'il n'a pas, face aux accusateurs, écrit sur le sol les péchés de tous ceux qui étaient là et qui entouraient et qui voulaient accuser la femme ? Et ce qui explique que, petit à petit, lorsque Jésus leur dit que celui qui est sans péché soit le premier à jeter la pierre, c'est parce qu'ils ont vu sur le sol écrit leur propre péché. D'autres interprétations sont possibles, on ne le saura jamais. Mais d'une manière ou d'une autre, ce mouvement d'abaissement et de relèvement, il se relève pour faire face aux accusateurs. C'est le doigt aussi le doigt de Dieu. Quand le doigt de Dieu ouvre, rien ne peut fermer. Quand le doigt de Dieu ferme, rien ne peut ouvrir. Et là, le doigt de Dieu ferme. Tu ne passeras pas. La miséricorde, ce n'est pas un encouragement au mal. La miséricorde, c'est un terme mis au mal. C'est une limite donnée à l'accusation, à l'accusateur de nos frères. Et donc, on voit Jésus qui se relève et qui dit que le premier qui est sans péché jette le premier la pierre. Celui qui est sans péché jette le premier la pierre. Ça vient de Deutéronome. Deutéronome, la main des témoins sera la première à les faire mourir, l'homme et la femme surpris en flagrant délit d'adultère. Et ça veut dire qu'il prend aussi celui qui jette le premier la pierre, il prend le sang de celui qui est condamné par lapidation. Donc Jésus, au fond, les renvoie à eux-mêmes et leur dit: est-ce que vous avez dans votre cœur assez de justice pour dire que vous-même, vous n'avez pas péché, sachant que dans un autre passage d'évangile, Jésus a dit, il vous a été dit, ne commettez pas d'adultère, mais moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec concupiscence, avec un désir malsain, celui-là est déjà adultère. Et on voit les hommes qui petit à petit partent, se frappant la poitrine, etc., parce qu'ils savent qu'eux-mêmes sont pécheurs. Et puis, qu'est-ce qui sauve la femme ? Qu'est-ce qui sauve la femme ? C'est à la fois ce geste de s'abaisser et de se relever, et puis le fait d'être seule avec Jésus. La femme, elle vit une intimité avec le Christ. Après cet amour improbable, elle vit un cœur à cœur avec le Christ, comme saint Augustin l'a dit, il y a là le face-à-face de la misère et de la miséricorde. C'est être seul avec le Christ qui permet d'être sauvé. Et on voit ce geste-là, mais aussi une parole, dis seulement une parole et nous serons sauvés. C'est ce que nous allons dire dans la liturgie juste avant de communier. Hein, dis seulement une parole. Et cette parole, elle est une parole considérable. Femme, il rappelle les paroles du commencement. Hein, la femme est faite pour l'amour et la femme est faite pour rappeler à l'homme le primat de la communion sur l'efficacité et le faire. Et c'est étonnant, c'est que là, dans l'évangile de saint Jean, la prochaine fois, le prochain épisode, le prochain chapitre où Jésus s'adressera à une femme en l'appelant, l'interpellant ainsi, femme, eh bien, ce sera à une femme qui est aussi debout, stabat, à la Vierge Marie. Donc, c'est très beau de voir que le regard du Christ sur cette femme adultère et cette parole femme la restaure, la relève elle aussi. Il s'est abaissé et relevé pour détourner le regard des accusateurs, mais il s'est abaissé et relevé pour aussi restaurer dans cette femme cette capacité d'amour et cette capacité de communion. Alors oui, le Seigneur fait bien la différence entre le pécheur et le péché. Hein, où sont-ils tes accusateurs ? Moi, je ne te condamne pas. Et puis on pense vraiment à cette parole du psalmiste, hein, il se tient à la droite du pauvre pour le sauver de ceux qui jugeaient son âme. C'est le psaume 109. Oui, le Seigneur nous demande d'avoir cette attitude de miséricorde, de nous laisser aussi regarder avec miséricorde. Nous aussi, nous avons enfreint l'alliance, nous avons servi d'autres dieux, nous sommes tombés dans des formes d'idolâtrie, que ce soit l'idolâtrie des plaisirs malsains, de l'argent, du pouvoir, du perfectionnisme, tout ça c'est des idolâtries, et nous sommes éloignés de Dieu, et le Seigneur nous restaure en nous rendant cette capacité de communion, en nous rendant la beauté des origines, et plus encore que la beauté des origines, il nous restaure en nous associant à sa propre gloire. Alors oui, le Seigneur nous demande que nous puissions nous laisser toucher en ce jour, nous demande que nous sachions avoir aussi un regard de miséricorde face à nous-mêmes, ce qui n'est pas forcément le plus simple. La miséricorde, encore une fois, ce n'est pas un encouragement au mal. Moi non plus, je ne te condamne pas, va et désormais ne pêche plus. Donc c'est une invitation, une demande, un impératif que le Seigneur donne à cette femme. Et en méditant sur cet évangile et sur les lectures du jour, vous pourriez aussi, si vous avez l'occasion, de relire la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens, ce passage que, que nous avons lu dans la deuxième lecture et mettre dans la bouche de la femme adultère après avoir été relevée, après ce cœur à cœur avec Jésus, hein, de remettre dans la bouche de la femme adultère ces paroles de saint Paul. Il s'agit pour moi de connaître le Christ, d'éprouver la puissance de sa résurrection, de communier aux souffrances de sa passion, en devenant semblable à lui dans sa mort, avec l'espoir de parvenir à la résurrection d'entre les morts. Amen.